Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu, toujours en direct du 3e salon des éditions libertaires, 28 rue d'Enfer Rochereau, sur le plateau de la Croix-Rousse. Alors, dans le cadre de nos invités, en lien notamment avec les débats, à 15h15, il y a un débat qui s'appelle les transformations du rapport salarial. Et nous avons deux invités pour parler de ce sujet-là, qui vont intervenir dans ce débat et qui vont nous en parler. Je vais d'abord vous laisser vous présenter et après vous parlerez un peu du contenu du débat.
Bonjour, je suis André Dréan, pour ceux qui ont l'habitude de voir cette signature. Je ne vais pas présenter un parcours personnel, je pense, d'activité qui là déborderait largement le sujet. Je peux dire personnellement que je me suis retrouvé dans les discussions, l'écriture et un certain nombre de choses qui sont passées dès le mois de mai. À travers la critique du dernier accord interprofessionnel national,
l'ANI,
ce qu'on appelle l'ANI, qui a été, à la fois préparé d'assez longue date et voté donc au Parlement, etc., etc. Puis à tout ça. Et je tiens à souligner que cette ANI est donc un pur produit de la conception gestionnaire du parti de gauche actuellement au pouvoir, du PS. Donc c'est assez logique de ce point de vue-là que quand ils sont arrivés au pouvoir, évidemment, une de leurs premières mesures sociales, ou plus exactement, on pourrait dire quasiment, pour employer un vieux terme, antisocial, c'était effectivement cette ANI. Donc voilà.
Alors justement, avant de redonner la parole à l'autre camarade, reparle-nous de ce qu'il y avait dans cette ANI.
Je ne vais pas détailler du point de vue juridique, mais disons, il y a à la fois, pour prendre un exemple, je veux dire, au niveau de l'ANI, il y a le fait que, en gros, pour prendre un seul exemple, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans, depuis 1945, sur la base du programme de la résistance, il y avait un certain nombre de conceptions au niveau de la hiérarchie des salaires, qui était d'ailleurs entamée depuis très longtemps dans la réalité, dans plein d'entreprises, avec tout un système de qualification de grilles, je vous passe les détails, qui était lié à tout le système industriel de l'époque. De plus en plus, évidemment, ça a été remis en cause. Je tiens à souligner que ce système était lui aussi parfaitement inique, puisque il a été l'occasion de grandes grèves, effectivement, entre autres d'OS dans les entreprises. Je veux dire, c'est dans les années 70. Je parle de la France, là. La remise en cause, je dirais, correspond plus la remise en cause en partie, juste en partie, de ces grilles correspond plus à ce dont a besoin le capital moderne, je veux dire, ce qui existe déjà dans un certain nombre d'autres pays, qui se traduit entre autres par plus tellement des qualifications, mais ce qu'on appelle des compétences.
Voilà, et puis on sort du code du travail, et c'est des négociations au sein des entreprises qui vont imposer des nouvelles règles.
Non, ça c'est pas vrai, parce qu'elles existent déjà.
Oui.
Elles existent déjà depuis 1978, si tu veux.
Tu veux dire qu'il y a eu un gros recul déjà en 78 ?
C'était pas un recul pour moi, je ne sais pas si je vais développer maintenant, peut-être que je vais laisser l'autre copain un peu présenter comment... Parce que là, je suis en train d'entamer le débat qui va avoir lieu.
Moi, je ne sais pas.
Moi, je m'appelle Xavier. Je participe à la revue Temps Critique qui existe depuis 89 et qui était composée de personnes qui étaient à la fois en France, à la fois en Allemagne, en Italie. Et qui a entamé un bilan des luttes des années 60-70, qui est interprété par ceux qui ont participé, comme une défaite du mouvement révolutionnaire de cette époque, et en mettant tout en faisant une remise en cause des grandes références historiques du marxisme et de l'anarchisme dans leur pratique qui ont été dans les années 60-70 et qui ne sont plus aussi explicatifs qu'on peut le penser. Face à cela, il y a une espèce de modestie à avoir, qui est de pas vouloir faire un grand système d'explications omniscient critique, mais qui voudrait tout expliquer à toutes les sauces, de ce qu'est pour nous la société capitalisée. Donc moi, on va rentrer un peu dans cette question de société capitalisée, je pense. Donc après, juste pour finir, le numéro d'intervention.
Alors intervention, c'est quelque chose qui est en lien avec temps critique, mais qui rentre pas dans les formats habituels des publications
voilà.
de temps critique.
Voilà. C'est-à-dire que on n'est pas un groupe à proprement parler, dans le sens où on n'a pas une cohérence. Il y a des gens qui peuvent dire l'inverse de ce qu'on pense dans la même revue.
C'est la limite.
Limite. on a aussi une pratique d'intervention, c'est-à-dire de proposer des choses à chaud. Plus courtes, peut-être qui veulent marquer le coup sur des mouvements, par exemple quand il y a eu le CIP ou bien avant sur d'autres questions. Enfin moi je voilà.
Et parce que là le numéro d'intervention avec le numéro 11 de mars 2013 parle de la flexi-sécurité à la française et donc de ce qu'on disait avant des évolutions avec la NIE, toutes ces nouvelles choses qui sont des reculs du pour le salarié, pour les droits du salarié. Donc c'est un peu ça ce qu'il y a dans ce texte.
C'est assez complexe.
Je pense que...
Vas-y.
Je peux y aller ?
Oui.
Oui, je pense d'abord qu'il faut dire, en termes de présentation, si tu veux, du sujet, que bon, on avait tous, soit les personnes qui participent directement à Temps Critique, soit les personnes qui, comme moi, y ont collaboré à certains moments, mais qui ont des activités avec d'autres personnes. Enfin bon, tout ça est assez fluide, on dirait, quoi. Mais en tout cas, des personnes qui, si on prend au printemps, se sont retrouvées, du point de vue de l'analyse de ce qu'il y avait derrière la NIE, si tu veux, j'irais en convergence, tu vois. Sans être, en termes d'individus, ce qui est normal, pas a priori d'accord sur tout, mais bon, qui sont trouvés sur un sujet qui nous semblait important. Déjà, le sujet nous semblait important. Alors pourquoi, quoi ? Parce que s'il ne nous avait pas semblé important, si tu veux, on aurait évidemment regardé ailleurs. Voilà. Le sujet nous semble important parce que, si tu veux, si je prends le cas des plus vieux comme moi, on a tous participé au mouvement de critique du travail, si tu veux, dans les années 70, soit en France, soit à l'étranger, parce qu'on n'était pas toujours en France, au mouvement de critique du travail, entre autres quand on travaillait, je sais pas, dans mon cas, par le coulage systématique des cadences, si tu veux, tu vois, dans les entreprises, par exemple.
Quand on travaillait à la chaîne
ou... Oui, par exemple, pas seulement à la chaîne d'ailleurs, parce que la question des cadences se posait pas qu'à la chaîne. Moi, il m'est arrivé d'être tourneur, si tu veux, et juste j'avais l'équivalent, parce que j'étais pas tourneur isolé, même si la machine était une machine entre guillemets à taille humaine. de toute façon, t'étais très soumis aux cadences, de fait. Même si t'avais pas la chaîne de montage, tu vois, auquel t'es accroché en quelque sorte. Donc, je prends cet exemple-là, mais je pourrais en prendre d'autres. Il y a eu des boîtes où il y a eu pas mal de sabotage direct, ou alors, on pourrait prendre l'absentéisme, le turnover, la perruque, enfin, tout ce qui se passait, si tu veux, dans les entreprises à l'époque. Donc on a tous plus ou moins des degrés divers, sans être évidemment des acharnés d'aller au chagrin, de façon générale, enfin au boulot, enfin, comme on dit maintenant, quoi, au job, qu'on appelle le chagrin, sans être des acharnés de cela, bon, justement, parce qu'on ne l'était pas quelque part, bon, on se retrouvait, si tu veux, dans les mouvements de critique du travail. Bon, dont on a effectivement éprouvé aussi les limites, parce que, de fait...
Il y avait un retour au travail.
S'il y avait effectivement une critique, si tu veux, donc du travail, en plus, tel qu'il se présente, c'est-à-dire le travail salarié, quelque part, si tu veux, cela a été aussi possible, parce que, si tu veux, il y avait des taux de chômage, enfin des taux d'indemnité chômage assez importants, que les loyers étaient moins chers que maintenant. Enfin bon, je ne vais pas détailler, on sait comment ça se passait à l'époque. Qu'il y avait plus de solidarité, si tu veux, je sais pas moi, quand quelqu'un, on savait très bien sur une chaîne ou ailleurs dans une boîte que bon, il partait, si tu veux, soi-disant en arrêt de maladie et que bon, on y revenait extrêmement bronzé, personne allait le balancer, on savait tous qu'il avait pris 2 mois de vacances, si tu veux, je sais pas trop où, quoi, bon, voilà quoi. Donc je vais pas détailler, on y reviendra. Je détaille déjà trop là pour une introduction. Donc il nous semble, si tu veux, que il faut savoir comprendre. Autant que peut se faire et sans avoir, évidemment, comme l'a dit Xavier, le monopole de la compréhension, il nous semble que c'est très important de comprendre de façon critique, et là en particulier en France, si tu veux, les mutations du travail, à supposer qu'on puisse d'ailleurs employer encore le temps de travail et pas un truc...
Comme activité salariale.
Qui est même plus vraiment du travail au sens traditionnel, mais on pourrait dire activité salariale avec tout ce que ça implique. Quoi. Bon. Donc il nous semble que c'est important de comprendre ces mutations. Parce que, pour quelle raison ? Bon, en deux mots, ce qui est dit dans une introduction qu'on a faite, qu'on lira pour le débat tout à l'heure, parce que bon, cette activité salariale dans un pays par exemple comme la France organise encore beaucoup de choses, si tu veux, non pas au sens de l'intérêt que les gens peuvent avoir à l'égard du travail, mais organise beaucoup de choses, ne serait-ce que ben il y a pas quoi. Si tu prends en grande partie tes revenus au chômage derrière, ils sont ou n'importe quoi, la retraite, tout ce qu'on voudra, ils sont indexés. Il y a pas encore quelque part en grande partie, si tu veux, sur le travail. Même les gens au boulot avec qui je peux encore travailler de temps à autre, vu mon âge, si tu veux, ils le voient comme ça en fait. C'est-à-dire, si tu veux, c'est le travail comme nécessaire, si tu veux, pour avoir des revenus au sens large, y compris des revenus versés
par retraite après.
Oui, quand je dis revenus, c'est pas nécessairement le salaire individuel, mais c'est les revenus en général, y compris ceux en France qui passent en grande partie par le biais de l'État, quoi. Bon, alors ça. Et donc, on pense que c'est important, donc, de comprendre bien, parce que même s'il y en a peu à l'heure actuelle des luttes sur ce terrain-là, ou que très souvent elles se déroulent soit sous l'égide d'appareils syndicaux, tels que la CGT, soit elles reposent souvent sur une espèce de nostalgie à l'égard d'un monde qui aurait été meilleur il y a 30 ans. Entre parenthèses, je me demande pourquoi on s'est en masse révolté contre ce monde supposé nettement meilleur, situé il y a 30 ans ou 40 ans. Soit on était fou, enfin je sais pas, tu vois. Bon, donc c'est évident que je ne fais pas d'échelle de valeur là, justement, entre des périodes historiques bien déterminées. Donc ça. Et deuxièmement, je pense que bon, il est évident, et je suis le premier à le reconnaître parce que je suis un vieil anti-nucléaire, par exemple, qu'il y a des formes de lutte, d'opposition à ce monde, qui effectivement se déroulent pas stricto sensu. Dans ce qu'on pourrait appeler le cadre du travail strictement salarié, si tu veux, avec ce que ça impliquait, l'entreprise, le machin. Bon, là-dessus, on a parlé il y a juste 5 minutes. C'est évident que, bon, j'ai peut-être personnellement une vision plus nuancée de ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes que ce qui a été dit tout à l'heure, mais il est évident que, bon, si on prend sur même un pays comme la France sur 30 ans, t'as eu les luttes antinucléaires, t'en as encore un peu, beaucoup moins, t'as des luttes qui se développent autour des questions, ce qu'on pourrait dire, de gestion du territoire, pour l'employer un terme simple, qui déborde et fit stricto sensu la question de l'activité salariale. Bien qu'elle s'y retrouve en son sein, l'activité salariale, de façon directe ou indirecte, et ça, je vais pas développer maintenant, on aura l'occasion de le développer au niveau du débat. Donc, voilà. En termes d'introduction, on voulait éviter ces deux écueils. C'est-à-dire, dans ce débat, grosso modo, si tu veux, une espèce de nostalgie.
Ouais, c'était pas mieux avant.
Non.
D'un monde qui était différent.
Ça, je crois qu'on est d'accord sur le monde du travail.
Non, mais de façon générale, si tu veux, c'est comme.
C'est juste différent.
C'est ceux qui.
Voilà.
Donc voilà. Donc il y avait ça. En termes d'introduction. Donc peut-être que je vais laisser la parole à Xav pour commencer à rentrer plus.
Ouais, peut-être parler un peu de la précarité, parce que justement, dans les formes qui évoluent, qui changent par rapport aux années 70, peut-être que la précarité aujourd'hui a une forme différente de celle des années 70. Alors je sais pas ce que t'en penses.
Moi je parle pas de précarité de façon générale en fait. C'est-à-dire que je parle de travail précaire. Parce que, et rien que dans le travail précaire, il y a une dispersion des situations qui est telle que justement ça devient très difficile de mener des luttes. Il y en a eu, et je pense que André a participé à un certain nombre. Quand ils étaient eux des précaires, des travailleurs précaires, etc. Mais c'est pas la lutte généralisée avec un nouveau le nouveau front de lutte quoi, unifié sur lequel tout le monde devrait se mettre, etc. Parce que je dirais que objectivement il y a une difficulté. Mais il n'y a pas que cette difficulté que je dirais celle de l'objectif, c'est que on se met, enfin c'est que les travailleurs se mettent à je suis en train de me perdre.
Du coup, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de lutte, c'est parce que aussi parce que les formes sont diverses, ce que tu disais.
Voilà.
La précarité, c'est pas la précarité, c'est le travail précaire à des multiples formes.
Voilà.
Mais c'est un peu l'idée du patronat, c'est de diviser, de faire que tout le monde soit individualisable et individualisé au possible, et même dans différentes précarités, pour empêcher une lutte d'émerger.
Je peux intervenir. Je suis pas vraiment d'accord avec cette vision, si tu veux. Surtout, bon, quand on a connu l'époque de la précarité choisie. Je m'explique en disant ça. C'est-à-dire que bon, j'ai dit tout à l'heure que j'ai connu l'époque. Enfin, la première fois que je suis entré en usine, les gars, ils m'ont pas parlé du boulot, ils m'ont parlé du chagrin. enfin en termes, les termes d'ailleurs, enfin tu vois ce que je veux dire, comment le changement de vocabulaire, par exemple maintenant on parle d'emploi, à l'époque on parlait chagrin, ça reflète à la fois des modifications totalement structurelles et même l'appréhension de la chose. C'est pas innocent. Enfin, on sait que les termes, si tu veux, employés.
Oui, le vocabulaire a beaucoup changé.
Tu vois, ils sont pas innocents. Je veux dire, moi, j'ai parlé de chagrin quand j'étais au chantier de construction naval de Nantes. Si tu veux, je veux dire, je parlais de chagrin comme tout le monde. Tu vois. Alors, et tu dis ça maintenant, même, je pense que des jeunes.
Les gens comprennent pas ce que c'est.
En gros, ils te demandent si t'as pas du chagrin. Quoi. Ouais. Quoi, tu vois, pour parler simplement. Bon, ce que je voudrais souligner, si tu veux, avant l'histoire de la précarité, peut-être, c'est la question de la subordination. Quoi. On est, et ça pas seulement à temps critique, bien que les copains de temps critique l'aient mis en avant, on a un certain nombre à employer le terme de subordination à la place d'exploitation ou de domination. Alors, évidemment, là aussi, c'est pas pour dire que la société est devenue beaucoup plus aimable qu'à l'époque du système Taylor ou je sais pas trop quoi. C'est juste pour marquer, si tu veux, que, un, d'abord, c'est pas juste domination, parce que dans le terme de domination, il y a la vieille idée qu'il y a une chape sur des gens qui sont quelque part extérieurs. Alors qu'on sait très bien tous autant qu'on est, à moins de croire qu'on est en dehors de ce monde, que tous quelque part autant qu'on est, on participe à la production, à la reproduction de ce monde, à des degrés divers, même d'ailleurs, effectivement, quand il y en est opposé. Tu vois. Enfin bon, voilà quoi. Donc ça, c'est déjà l'exclusion, je dirais, de principe du terme très usité d'ailleurs dans des milieux anti-industriels, je sais pas, qu'on peut voir, de les gens sont soumis. Moi, je suis pas d'accord là-dessus. C'est une notion morale. Franchement, je le pose en termes de notion morale. Parce que quand tu creuses les choses, est-ce que moi, quand je commence à entrer en retraite, est-ce que quand je vais quémander, si tu veux, 5% de plus de ma retraite relativement misérable parce que j'ai pas trop travaillé, est-ce que je suis pas en train, si tu veux, de me soumettre aussi quelque part, si tu veux. Enfin, tu vois, on pourrait jouer loin comme ça. Donc, déjà, le terme de soumission, je pense, c'est important. Qui très souvent, dans les discours, ça va pas, quoi. Parce que ça voudrait dire quelque part qu'il y a une masse, si tu veux, de gens qui se mettent à plat ventre, et puis inévitablement, un noyau d'élus, non, puis, dont nous sommes inévitablement, bien sûr.
Si je peux enchaîner, oui, on me demande d'être actif dans quand tu es au travail, on me demande d'être actif. Qu'est-ce que, enfin, tu fais ton entretien individuel, comme ça c'est vu, par exemple, dans la fonction publique même.
Bah oui, maintenant, c'est voilà. Partout, oui.
Tu fais ton entretien individuel et on te fait faire, oui, alors qu'est-ce que vous pensez de, qu'est-ce que vous allez vous former, vous allez machin, qu'est-ce que vous pensez de, enfin, qu'est-ce que vous allez faire pour en fait, être mieux, ça serait être mieux, comment dire,
être mieux dans le travail.
Mais on te le demande, on n'est plus avec quelqu'un dans ton dos qui simplement te.
C'est pas un chef qui te tape dessus, quoi. C'est beaucoup plus pernicieux que ça.
Non, mais si je peux me permettre, si tu veux, il y a deux choses qui ont beaucoup joué, sans caricaturer, mais en employant des mots maintenant qui sont assez courants. On est grosso modo, mais sans mettre des cloisons étanches entre les termes et les périodes historiques, on est grosso modo passé d'une période, si tu veux, où dominait une sorte de taylorisme,
de fordisme,
de fordisme avec, si tu veux. Alors c'est des transitions plus ou moins douces suivant les pays, plus ou moins marquées suivant les luttes qui s'y passent. Donc ce que je vais dire est un peu quelque part caricatural, tu vois. Il y a pas de muraille de Chine entre les deux choses que je vais dire, en fait, même pas ici, même pas en France, à ce qu'on a appelé du toyotisme, par exemple, avec tout ce que ça implique. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, le toyotisme? Bon, ça vient de Toyo, quoi. Enfin, de Toyota. Ouais. Bon, ça veut dire quoi, si tu veux? Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire, évidemment, là encore une fois, que le passage d'un à l'autre, ça veut pas dire que c'est plus aimable. Mais simplement, si tu veux, ça tient compte d'un certain nombre de modifications. J'aime pas le terme structure, mais disons presque structurelles au niveau social. Si tu veux. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, d'ailleurs, que la financiarisation du capital joue un rôle énorme là-dedans, si tu veux, non pas en tant que facteur extérieur à l'ensemble du processus de production, de consommation, pour employer des termes simples, mais il est totalement intégré. Il y a des choses qui n'auraient pas pu se produire, même en termes, si tu veux, quasiment d'organisation du travail, s'il n'y avait pas eu la financiarisation, si tu veux. Ça, c'est un premier truc. Deuxièmement, il y a un truc qui joue un rôle évidemment énorme, et tu t'en doutes bien qu'on est ni moi ni des copains de temps critique les premiers à souligner, c'est la question du rôle accru de la technoscience dans tout ça, qui est absolument gigantesque. Si on n'est pas les premiers d'ailleurs à le souligner, tu les as dans des textes qui datent des années 60, je sais pas, moi, d'Adorno par exemple, de ce qu'on appelle l'école de Francfort, tu vois, des choses comme ça. Et ce qui était en germe à l'époque, si tu veux, est devenu effectivement totalement, est devenu prédominant, même si tu peux encore trouver, même en France, sans parler d'autres pays, une petite entreprise dans laquelle tu as évidemment des méthodes quasiment artisanales, tu vois, ouais. etc. Par contre, ce rôle effectivement grandissant de la technoscience à tous les niveaux, y compris au niveau de ce processus de production et de consommation, a totalement accompagné et totalement imbriqué si tu veux, la financiarisation. C'est pas des domaines séparés en réalité, si tu veux. Non, l'un n'est possible qu'avec l'autre, ouais. etc. La financiarisation exige des moyens techniques, si tu veux, je sais pas, l'informatisation, par exemple, pour prendre des cas très simples. Inversement, une grande mobilisation de capital, pour employer des vieux termes, disons capital-argent, pour faire simple, rentre à tous les niveaux pour, bon. Et donc, en pratique, avec tout ça, il y a très peu de distinction. D'abord, la notion du temps a changé. Si tu veux, même dans ce qu'on pourrait isoler, entre guillemets, encore comme processus de production, à supposer qu'on puisse l'isoler, et en plus, il ne se limite pas aux barrières habituelles de l'entreprise.
Ah, ben, de moins en moins, du coup.
Tu vois? Bon, très concrètement, je pourrais prendre plein d'exemples. D'abord, il n'y a plus de chronométreur, pour l'essentiel. Ouais. Prenons des exemples très concrets. Même à Aulnay, si tu veux, qui est une entreprise assez classique, Aulnay,
donc Peugeot.
Peugeot, qui est pas loin de chez moi, il y a plus de chronométreur, tu vois, depuis belle lurette.
Par contre, les formes, l'incitation à aller travailler plus, travailler mieux, elle existe toujours, mais.
Oui, parce que c'est des contradictions.
Voilà, mais elle est intégrée dans la machine maintenant.
Et deuxièmement, si tu veux, il n'y a rien de pire. Attends, je finis une seconde sur la partie, justement, cette partie-là. Il y a un truc qui est particulièrement pernicieux, c'est qu'effectivement, la hiérarchie, elle est quasiment prévu, entre guillemets, pour employer des termes simples encore, dans l'arsenal technologique, si tu veux, sans avoir besoin que tu te soumettes à un chronométreur. Voilà, derrière ton dos, tu vois.
Oui, et comme je disais, comme on a parlé de subordination, c'est, on va te dire, il faut que tu t'actives être actif, par exemple, derrière ton ordinateur, mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Je veux dire, c'est un simulacre, des fois. Enfin, et malheureusement, t'es là, mais même si on considère, nous, le travail comme à la fois comme étant un temps avec une forme de discipline, qui, bon, on pourra discuter de la discipline en question en détail, parce qu'elle a changé aussi. Avec l'intégration finalement comme vient de le dire André dans la par la technoscience par l'informatique où tu te retrouves avec un temps qui peut être compressé complètement dans un truc de fluidité de flux tu es inclus directement dans enfin c'est le but hein c'est de d'être inclus dans un flux de qui te contraint. Et ça, c'est particulièrement vrai.
Un simple exemple qu'on peut prendre à travers des luttes.
On termine vite.
Ah oui, pardon.
On passe la parole. Mais...
Oui. Par exemple, pour prendre, à l'envers, au niveau justement des oppositions réelles. Bon, moi, j'ai connu l'époque, premières usines, premières, à bas les cadences infernales. Tu vois, depuis 20 ans, en France, grosso modo, si tu veux, une exigence ou une lutte qui se déroule autour de cadences infernales. Ben non, pourquoi? Ben parce qu'il n'y a plus de cadence.
Oui, parce que tout est intégré dans le système. Et
tout simplement parce qu'il n'y en a plus. Pour l'essentiel, là, je caricature un peu vite, là, parce qu'on a beaucoup de temps. Mais, parce que pour l'essentiel, si tu veux, ce qui est important, c'est le temps de production en général, complètement amalgamé au temps de circulation des marchandises, avec un temps de travail qui en même temps n'en est pas vraiment un, tout en étant un, si tu veux, au point que tu entretien d'embauche. Moi, mon premier entretien d'embauche, c'est « Vous êtes quoi, monsieur machin ?»« Vous avez fait un CAP de tourneur, on va voir. » Bon, entretien d'embauche, je veux dire, dans les secteurs où je finis de travailler là, en période de retraite, à savoir essentiellement, si tu veux, l'édition, la presse, la presse, pas comme journaliste, comme correcteur, tu vois, des trucs comme ça, ou maquettiste.
On te demande de raconter ta vie.
Voilà, on te demande de raconter ta vie, du genre, vous connaissez la Chine, c'est très important que vous soyez fait des longs séjours en Chine, alors qu'il y a 30 ans, on m'aurait dit « Putain, celui-là, il fout rien. » Il a passé 6 mois de l'année à faire autre chose.
Voilà. Bon, alors,
très concrètement.
Du coup, pour avoir plus d'informations, c'est tout à l'heure le débat à 15h15. Ça durera 1h30, donc il y aura l'occasion de revenir sur tout ça. Merci d'être venu en parler à Radio Canu. Donc, on est toujours en direct du salon des éditions libertaires. Et puis tout de suite un peu de musique avant de passer au prochain sujet.
Je suis désolé.
Je ris à peine, je sors de ces tours que l'on met en quarantaine. Je suis de ces parasites dont on parle à l'antenne. Moralité, la sécurité des lieux n'est pas certaine. Je crame, je brûle, je hurle, je gueule. Je traîne en ville en bande ou même déambule seul. J'ai un rôle colossal à la cave et au sous-sol. Je recherche l'étincelle mais j'ai paumé ma boussole. Alors je bois, je fume, je noie ma flemme. Je crois aux flammes, j'acclame la haine. Mes larmes et mes peines n'impressionnent personne et on me traite de hyène sur toutes les ondes hertziennes. On se moque de mes œdèmes et de mes états d'âme. Tout m'ordonne en fait de ne pas vivre à l'état d'homme. Et moi que l'on nomme l'individu bas de gamme, qu'on me dégomme sur le macadam serait le minimum. Je sais, je traîne, je sens, je gêne. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. Ma tête mêlée, ma peau est peine. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. La hargne est dans mon sang, mes peines. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. J'habite au loin, en zone urbaine. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. J'ai le ventre à terre et on m'en veut à tort. Je n'ai aucun de leurs critères pour monter à bord. Mon dortoir est autant solitaire qu'en retard. Beaucoup trop près de l'arbitraire et ses avatars. Ce qu'on déplore en clair, c'est que je ne sais pas plaire. Embrasser l'étendard, applaudir en fanfare. Et on me fait dire qu'il faut bannir ma colère et puis faire taire mes nerfs à vif et mes nombreux molars. Mon calvaire n'est réduit qu'à un bruit de couloir. Un parcours vulgaire qui manque de bon vouloir. On dit que ma cité n'est pas le défouloir de flics ailés, un triste défilé d'abus de pouvoir. Et mon itinéraire n'est ni mort, ni tout noir, ni bétonné, ni à mille bornes des plus beaux territoires. Mon teint n'est pas non plus maintenu sous le tonnerre. Attendons le meilleur, commençons les prières. Je sais, je traîne, je sens, je gêne. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. Ma tête mêlée, ma peau est peine. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. La âme est dans mon sang, mes peines. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. J'habite au loin, en zone urbaine. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine.
Et oui, c'était Kazé sur Zone Libre, Purger ma peine.